Vous écoutez RTL.
Il est 11h04, vous êtes sur RTL, à la bonne heure commence bien sûr avec Stéphane Bern. Bonjour.
Absolument.
Stéphane.
Oh, bonjour Marie Guerrier, quelle joie de vous entendre. Ça fait du bien. Merci. Marie Guerrier, c'est comme, c'est des étapes importantes dans ma journée. Il y a Marie Guerrier à 11h et elle revient à midi.
À tout à l'heure.
Et puis nous plongeons à la bonne heure avec Jean-Marc Dumonté et Ben. Bonjour. Et les coquettes qui vont arriver. C'est tout un spectacle tout seul. Ils sont venus avec leur grand barnum. Parce que c'est les 10 ans du spectacle. Point virgule fait son Olympia. On va en parler évidemment. Mais d'abord, je vous présente les petits camarades qui vous accompagnent. Bon, il faut juste que je retrouve mes fiches.
Je ne les ai pas prises.
Voilà, je ne les ai pas prises. Ce n'est pas grave si je les ai. Voilà, là. Vous êtes deux. Mais est-ce qu'il y a parmi vous un héros et un salaud? Je serais bien incapable de le dire. Mais si c'est le cas, Stéphane Blakowski nous le révélera.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors cette semaine, je suis un petit peu embarrassé parce que quand je vais vous dire le nom de mon salaud de la semaine, j'ai peur que ça vous choque. Ah. Parce qu'en fait, il y a des salauds qui cachent... il est là. Dans nos cœurs, dans le cœur de certains, il y a des salauds, vous savez, qui cachent bien leur jeu. On les croit sympathiques, on les respecte. Et puis en fait, bon, je vous dis le nom de mon salaud de la semaine.
C'est le pape ?
Non, c'est le prince Philippe. Oui, le prince Philippe.
Non,
ça, le scandale éclate.
Autant le pape, ça passait, le prince Philippe.
Écoutez, vous allez voir tout à l'heure.
C'est un vieux salaud.
Et c'est la fin de la saison, vous êtes complètement malade de vous mettre à dos le patron.
C'est idiot, c'est contre-productif.
Oui, mais que voulez-vous, la vérité est là, et pourquoi la cacher?
C'est un monsieur très bien, je peux vous le dire, et il s'est toujours montré impeccable avec
moi. On en reparlera en 25.
Avec vous, mais avec les autres.
Entre salauds.
Mais peu m'importe, il était très gentil avec moi.
Peu me chaud.
Régis Maillot est avec nous. Il profitera de votre présence pour vous montrer la marque du maillot.
J'espère bien.
Juste après le journal de midi. Une star très très rare à la télévision était hier sur TMC. Éric Dussard nous en parlera dans son zapping. Bonjour Éric.
Bonjour à tous. Cette star, c'était Tom Cruise qui est très rare à la télé et qui était hier soir dans Quotidien. On aurait pu penser qu'il allait être pénible. Pas du tout. Ils ont eu beaucoup plus pénible dans Quotidien hier soir à la personne de Jean-Luc Mélenchon qu'ils ont essayé d'interviewer.
Il est devenu pénible.
Et là, ça a été mission impossible pour avoir une interview à peu près correcte de Mélenchon.
On l'avait oublié qu'il était pénible.
Oui.
Le temps d'une campagne, il a essayé de croire qu'il n'était pas pénible.
Oui, ça n'a pas duré longtemps.
Voilà. Ça, c'est le naturel.
Et Patrice Carmouze, voilà. Il fait aussi son Olympia dans son test musical consacré aux vedettes mythiques du grand music hall. Et à la clé, un très beau cadeau. Un séjour d'une semaine de vacances pour 4 personnes grâce à Cap France, qui est le premier réseau de villages vacances en France. Nous offrons une semaine pour 4 personnes en pension complète. Alors, vous avez le choix. Vous dites, je vais aller à la montagne, à la campagne, à la mer. Tout est compris. Le tout, c'est d'aller voir sur le site de capfrance.com. Voilà. Vers 11h40, c'est pas la première fois, mais c'est toujours un plaisir, nous recevrons les coquettes parce qu'elles font 2 fois l'Olympia. Le 2 juin, toutes seules, et le 10 juin, avec les autres.
Ah, ça, c'est exactement. Pas mal.
Alors, je vous présente maintenant nos invités. Dans le monde théâtral, il est l'un des hommes les plus puissants de la place de Paris. Propriétaire de 5 théâtres, pas moins. Producteur de nombreux humoristes, dont Nicolas Canteloup, qui l'a propulsé grâce à Michel Drucker, ou Alex Lutz, qui l'accompagne dans la folle aventure de Catherine et Liliane. Sans parler de la cérémonie des Molières, à qui il a donné une seconde chance et une deuxième jeunesse. Il est vrai qu'il a tout du collectionneur compulsif. Des journaux, d'abord, comme passionné de presse écrite. De pins, ensuite, qui ont fait sa fortune dans les années 90. Mais surtout d'artistes et de salles de spectacle. Sans parler de son autre passion, pas si cachée, pour la politique. Car après avoir été conseiller en communication de Chaban-Delmas à Bordeaux en 89... Il a guidé le candidat Emmanuel Macron en 2017, notamment pour poser sa voix et maîtriser son langage corporel. Il vient ce matin fêter avec nous les 10 ans du spectacle qu'il a créé, le point virgule fait son Olympia, en offrant une scène mythique à tous les jeunes humoristes, et les moins jeunes, qu'il repère et ensuite qu'il produit. Non seulement il s'est fait accompagner des coquettes qui vont chanter dans un instant, mais également d'un humoriste que nous aimons beaucoup ici, et à qui Michel Drucker, aussi encore lui, a également offert une vitrine télévisuelle, et qui, après avoir fait de sa particule, si je puis dire, un nom de scène, Ben, se produit dans un spectacle éco-responsable. Cet homme est donc un chef d'orchestre de talent, au pluriel et au singulier, Jean-Marc Dumonté.
Ça
va, ça vous va, c'était...
Oui, ça va, ça m'a pas... Ça va, c'est un peu dur quand même, mais ça va.
Votre humilité...
Oui, ça va.
C'est un peu critique.
Votre humilité dut-elle en souffrir?
Vous avez oublié de citer Ben?
Si, j'ai cité Ben.
Il fallait pas partir aux lettres, Régis.
Éco-responsable, ça vous a dit quelque chose?
C'est un très bon spectacle, il faut aller le voir, surtout.
Il y a un an, une seule syllabe, ça passe très vite quand on le dit Ben, hop, ça y est, c'est fini.
Exactement. Mais s'il avait donné tout son premier spectacle, c'était avec son nom complet. Et donc là, c'était toute une histoire dont je me souviens, qui était très sympa, très amusante.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, ça parle d'autre chose.
D'autre chose. Vous êtes éco et responsable.
Il voudrait bien.
Oui, c'est ça.
Alors, on va en parler, mais d'abord, une interview ponctuation. Ah oui, point virgule.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et ce matin, nous sommes avec Ben et avec Jean-Marc Dumontet pour une interview ponctuation. Bah oui, c'est le point virgule qui fait son Olympia. Donc j'ai fait une déclinaison des ponctuations. Dans les discussions, une fois que votre décision est prise, vous dites souvent un point c'est tout ou vous changez d'avis?
Non, le propre d'un patron c'est de décider, donc ouais, je change pas trop d'avis. Ouais.
C'est moi qui lui ai appris ça.
Ouais. Non, mais voilà. Oui.
Vous êtes très un point c'est tout, Ben.
Oui, un point c'est tout. Est-ce que comme Flaubert, vous estimez que la plus belle fille du monde ne vaut pas une virgule mise à sa place?
C'est beau ça.
Ouais.
Je sais pas. Aimer la littérature.
Ouais,
pour
je suis un peu quoi, là, par rapport à cette question-là.
Ouais, quoi, oui. Les virgules, quoi. Vous aimez?
Les virgules?
Oui.
Moi, je. Je n'aime pas cette question.
Soyons pas prudents, c'est une jolie fille, c'est quand même mieux qu'une virgule. Il y a un moment, Flaubert, ça va bien.
Ouais. Ça va.
Vous préférez les jeunes femmes?
On était brillants, là, sur la réponse.
Après Flaubert, c'est difficile.
C'est compliqué.
Vous vous accordez des petites pauses, des petites siestes dans une journée, des sortes de points-virgules?
Non. Non, j'ai la chance d'avoir plein de centres d'intérêt, donc pouvoir m'amuser toute la journée, avec plein de sujets divers.
Et vous n'êtes jamais fatigué?
C'est drôle,
on a même... Les deux font la sieste, alors ils ne peuvent pas comprendre ça.
Non, je suis pas fatigué. Je suis fatigué quand je n'ai pas de projet, quand je n'ai pas d'envie. J'essaye d'en avoir tout le temps.
Vous faites la sieste, Stéphane?
Jamais, j'ai pas le temps.
D'accord.
Voilà.
Okay. Il y a des gens qui font la sieste pour lui.
Il a du personnel.
Il paye des gens qui font la sieste.
C'est Patrice qui fait la sieste pour moi. Dans votre vie, qu'est-ce que vous mettriez volontiers entre parenthèses?
Rien.
Oh là là,
tellement de choses.
Tellement de choses.
Tout entre parenthèses. Ouais, bien sûr. Il resterait quoi alors?
Rien.
Les parenthèses.
Est-ce que dans votre existence, il y a beaucoup de points d'interrogation?
Pas trop.
Vous avez réponse à tout?
Ah non, j'ai pas du tout réponse à tout. Je suis très ignare. Mais j'essaye d'avancer et je crois que le propre de celui qui veut avancer, c'est pas se poser trop de questions. C'est d'avoir des buts, essayer de les atteindre. Et à partir de là, si vous laissez vampiriser par les doutes, vous pouvez pas avancer. Donc j'essaye de pas être soumis à ça.
Et vous, Ben?
C'est tout l'inverse. C'est vraiment l'antithèse de Jean-Marc Dumontet. Des points d'interrogation en permanence, tout le temps, le matin, la douche, le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut choisir en premier? Je ne sais pas.
Ah oui. Vous hésitez, mais je vous ai toujours connu hésitant. Et...
Ah oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment des bonnes raisons de ne pas hésiter? Non, je crois pas.
Il a hésité à venir.
Pain au chocolat ou croissant, baguette ou.
Non, mais c'est un problème. Est-ce qu'il faut prendre sa douche ou son petit déj en premier? Je ne sais pas répondre.
Et vous faites quoi, vous?
Je fais les deux en même temps. Je mange mon croissant
N'hésitez pas à la question. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter?
Non.
C'est juste ça.
Non, c'est voilà. C'est je n'ai qu'une seule certitude.
Qu'est-ce qui vous fait vous extasier comme quand on met des points d'exclamation?
Le talent des artistes. J'adore ça. Lundi soir, sur les Molières, j'étais profondément ému par le talent de Nicolas Bedos.
Ah, il a un talent.
Qui est brillant, qui a du charisme, qui sait prendre une salle. Mais comme j'étais très séduit la première fois que j'ai vu Ben et toutes les fois suivantes, par sa capacité immédiate à être là sur scène. Voilà.
Et vous, qu'est-ce qui vous... Cet exercice d'admiration, les points d'exclamation, vous les mettez où?
À part pour moi.
Oui, restons modestes. Voilà.
Moi aussi, c'est des artistes qui me... Certains artistes que j'admire. J'ai eu l'occasion de voir Alex Lutz, ça fait un peu Serge Dupont parce que
il fait partie de la même écurie.
Mais Alex, il m'impressionne vraiment. C'est un artiste qui m'impressionne vraiment.
Quand on termine une aventure, est-ce que vous mettez un point final ou des points de suspension?
Point de suspension.
Oui. Donc c'est jamais terminé.
La vie est longue. Hein.
Oui.
Et pareil pour moi, ce sera point de suspension.
Très bien. Moi aussi, je ne mets jamais point final. Eh bien, on va se retrouver dans un instant. On va parler de ce spectacle le 10 juin prochain à l'Olympia, les 10 ans du gala qui est devenu un événement, le point virgule fait l'Olympia. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Ben et avec Jean-Marc Dumontet. Donc je l'ai dit, le point virgule fait l'Olympia. Ben, vous serez sur la scène de l'Olympia. Hein, avec, avec tous les artistes.
Le 10 juin, avec tout le monde, avec Sophie Girard aussi.
Pour oui. Présenter. Alors, il y a qui alors à vos côtés? Il y a Elise Moon, les Coquettes, Fary.
Fary, Alex Lutz,
Jérôme Daran.
Jérôme Daran, Verino, Jal, Guillermo Guiz. Comment il faut dire Guillermo Guiz?
Ouais, je dis ça.
Guiz.
Ouais.
Voilà.
Lui, il dit comme ça.
Alors, c'est un rendez-vous, ce qui est intéressant, qui mêle à la fois des talents confirmés.
Alors, cette année, ce ne sont que des talents confirmés.
Ah oui, pour les 10 ans, vous n'avez pas voulu prendre de risque.
Pour les 10 ans, on a fait venir, c'est l'équipe historique. Enfin, quand il y a Ben, quand il y a Jérôme, quand il y a Alex Lutz, c'est vraiment les gens qui ont démarré au point virgule.
Il y a Elise Moon, mais ça va décoller dans pas longtemps.
Voilà. On y croit. Il y a 10 ans, quand j'ai racheté le point virgule, c'était la jeune génération, les trois que je viens de citer, Ben, Alex et Jérôme. Et on a lancé cette aventure ensemble.
Oui, c'est vrai.
C'est chouette de se retrouver 10 ans après.
C'était osé de faire ça à l'époque, de mettre les artistes du point virgule. Parce que
sur des grandes scènes.
Personne ne nous connaissait. Et Jean-Marc, c'est vrai, il a pris l'Olympia pour nous. Il n'y avait que nous. Il n'y avait pas du tout de tête d'affiche.
Il y avait du monde dans la salle.
Il y avait du monde dans la salle, bien sûr.
On avait su créer une dynamique. Et c'est vrai que l'idée de faire venir tous les petits jeunes à l'Olympia était une idée amusante.
Oui. Mais quelle bascule angoissante, non? Passer du point virgule, c'est combien de places à l'Olympia?
110
places pour le point virgule.
110 places et 2000 pour l'Olympia.
Ouais. Ah ouais. J'ai le sentiment que c'est plus simple de faire l'Olympia.
À leur début, aucun ne pourrait réunir sur son nom 2000 personnes. Par contre, tous ensemble, chacun 110 vient avec ses 110 clients et ça fait 2000.
C'est ça. Mais il en faut 20 chaque année, alors.
C'est la même configuration de scène. Hein. Oui. Voilà, un balcon. Bon, c'est juste un peu plus grand, mais c'est vrai. Hein, c'est plus facile de faire rire plus de 2000 personnes.
Oui, absolument.
C'est moins intimidant.
On est moins près du public.
Mais cela dit, le point virgule, c'est aussi un endroit mythique. On parle de l'Olympia, évidemment. C'est une scène mythique du music hall. Mais le point virgule...
C'est la plus petite des grandes salles.
Exactement, 40 ans. Oui. Tout le monde a commencé là. Enfin, on peut citer Florence Foresti, Anne Roumanoff, Chantal Latsou, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Laurent Ruquier. Ils ont tous, tous commencé un jour ou l'autre au point virgule, qui était à l'origine la veuve Pichard de Martin Lamotte et Gérard Lanvin. Vous... Jean-Marc Dumontet, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter cette salle?
Comme d'habitude...
C'était qu'en 2006, hein?
Oui, en septembre 2006. C'est un hasard et un accident. Ah. C'est-à-dire que c'est Jean-Pierre Bigard, le patron du Palais des Glaces, frère de Jean-Marie, qui me parle tout le temps du point virgule. Il est en dépôt de bilan. Je lui dis, tiens, je vais le racheter. Je ne connais pas le point virgule. Je ne suis pas parisien, j'habite à Bordeaux, je sais à peine où c'est. Et je n'ai pas saisi à quel point c'est une salle mythique. Oui. Et je n'ai pas saisi à quel point ce quartier est génial. Voilà. Je l'achète, je m'y retrouve, on y va. Et c'est une aventure géniale. Et parmi tous mes 4 théâtres, je pense, parce que j'ai 4 théâtres. Vous êtes très laudateur avec moi, vous en avez mis 5. Pourquoi
pas? Il y a
pas,
Antoine mais... aussi.
Antoine, Bobineau, point virgule et grand point virgule. Oui.
C'est tout.
C'est tout. Je suis désolé de vous recevoir. Voilà.
C'est petit bras, Jean-Marc.
Ce qui voulait un peu rajouter.
Je crois que je vais quitter l'émission avant son terme, crois. Mais parmi les 4 théâtres que j'ai, je pense que c'est celui que j'aime le plus. Parce que c'est celui du début de l'aventure pour chacun. Oui. Et c'est génial de voir Ben à mes côtés aujourd'hui. On a commencé ensemble, quand j'ai racheté le point virgule. Et puis, ça y est, il a sa carrière. Il est réputé et renommé. C'est pareil pour Alex Lutz. Et c'est vraiment.
Quand vous avez créé un théâtre, vous l'avez appelé le grand point virgule.
Oui, le grand
vous
point virgule. Parce que j'avais envie de poursuivre l'aventure avec les artistes. Parce que c'était très frustrant pour moi qu'ils soient au point virgule, que ça commence à très bien marcher pour eux. Et de les abandonner et de les quitter. Et donc, comme ça, on les accompagne sur 2 salles au grand point virgule, une de 200, une de 400, pour poursuivre.
C'est un formidable théâtre aussi, le grand point virgule. Je suis allé voir Jean-Fille Janssen il y a quelques jours et c'est magnifique.
Il y a une énergie là aussi qui est agréable.
Il y a deux salles. J'avais vu Antoine Duléry aussi dans son spectacle dans l'autre salle.
Chantal. Mais votre histoire est intéressante. Un jour, on devrait l'écrire quand même. Vous êtes passionné de presse écrite, vous collectionnez, vous avez travaillé dans un, dirigé un journal, mais vous avez fait fortune avec les pins à l'époque où tout le monde voulait.
Oui, c'était
pins.
En 92, 93.
Voilà,
oui.
Hein, avec la boîte
les gens
à pins,
pensent que j'avais une passion pour cet objet. Non,
non, non,
non, j'ai juste été un peu opportuniste et ça m'a permis de mener plein d'aventures.
Mais comment on vérifie des pins, j'arrive pas à comprendre.
Oh, bah le nombre.
Bah parce que le but du commerce, c'est d'essayer d'acheter pas trop cher et de vendre. Et c'est ce que je suis parvenu à faire.
Donc avec des pins à 10 centimes, il faut en vendre un paquet pour
devenir
riche.
Non, ça coûtait 6,50 francs, c'est-à-dire 1 euro à l'époque, pour 1000 pins. Et j'en faisais des centaines et des centaines de milliers. Et j'avais 30 personnes à Bruxelles, à Barcelone.
Ah
à,
ouais.
Donc on a encore des pins à faire.
Mais au fond, je le marché, des marchés, vous avez, hein, ensuite, vous avez tout donné. Vous avez
j'ai tout donné.
Tout donné pour acheter des théâtres et pour faire vivre des artistes. Vous êtes un homme de scène refoulé?
Ah, pas du tout. Pas du tout. J'aime les aventures. Et la scène, ça permet ça. Ça permet de découvrir quelqu'un, de partir avec lui et d'essayer de se hisser le plus loin possible. Et ça, c'est magique. Mmh. C'est magique comme émotion. Voilà.
Alors, on va parler de Ben dans un instant parce qu'il a aussi... Et d'abord, vous êtes... non, non, mais parce que d'abord, il est en tournée. Vous êtes en tournée dans toute la France. J'ai vu le 3 juin, vous êtes à Lardy.
Tout à fait. Alors là, c'est un peu la fin de la tournée. Hein, oui. Sur la
mais après septembre, il y en a plein.
Ça redémarre en septembre.
Septembre, novembre, décembre, janvier 2018. Vous êtes déjà pris hein, comme garçon. Ouais.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Jean-Marc Dumontet, avec Ben... Pour les 10 ans du point virgule fait son Olympia, mais voici Stéphane Blakowski avec les héros et les salauds.
Les héros et les salauds de Blacko.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, mon salaud de la semaine, c'est le prince Philippe, autrement dit le mari de la reine d'Angleterre. Oui, j'entends Stéphane qui grogne et en même temps, quand je dis ça, Stéphane, je ne veux surtout pas vous causer des ennuis. Bah, non, parce que je sais, pas encore, hein, mais je n'ai pas rien dit. Mais en revanche, je sais qu'il y a 3 ans, vous avez été
décoré. Vous avez dit que c'était un salaud, c'est tout.
Oui, c'est vrai, c'est quand même, je suis un peu engagé quand même. Mais surtout par rapport à Stéphane qui, il y a 3 ans, était donc décoré de l'ordre du chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Donc forcément, si
toutes mes je les défends un peu, non mais c'est bon.
Forcément, si la reine d'Angleterre s'est pris d'affection pour vous au point d'écouter RTL le matin, elle risque d'être choquée hein, en voyant que le titre d'une rubrique c'est que son mari est un salaud. Ouais. Alors du coup, pour éviter qu'elle vous demande de ramener cette médaille qu'elle vous a accrochée au veston, je voudrais un petit peu relativiser mon propos malgré tout.
Ah bon.
Oui, le prince Philippe est un salaud certes, mais c'est aussi un être complexe. Donc c'est pas un salaud intégral. Par exemple, en tant que duc d'Édimbourg, alors là, il est tout à fait à la hauteur. Hein. En tant que baron de Greenwich, bon, bah, au-dessus de tout reproche, pareil. Et même si on prend son titre de baron de Meliones, il est absolument impeccable. Oui, mais voilà, parmi tous ces titres de noblesse, il y en a un que le prince Philippe a un petit peu délaissé. Je ne sais pas si vous le savez, vous devez le savoir, Stéphane, mais le prince Philippe n'est pas seulement le chef de la famille royale d'Angleterre. C'est aussi un dieu vivant. En effet... Le prince Philippe est considéré comme un véritable dieu par les habitants du village perdu dans la montagne de l'île Tana, qui est situé dans l'archipel des Vanuatu. Ça paraît incroyable, et pourtant, eh oui, non, riez pas, c'est une info. Vrai. Les habitants du village de Yunnanen y croient vraiment. Alors de la même manière que les chrétiens adressent leurs prières à Jésus, eux, ils adressent leurs prières au prince Philippe. Et de la même manière que les chrétiens attendent le retour du Christ à la fin des temps, eux, ils attendent le retour du prince Philippe pour pouvoir enfin accéder au paradis. Ça peut faire sourire en même temps. C'est quand même plutôt plus rationnel de croire au prince Philippe qu'à Jésus. Car le prince Philippe, au moins, on est sûr qu'il existe. On a vu sa photo dans le journal. Bon, et en plus, c'est assez efficace, hein, parce qu'il adresse régulièrement des prières, notamment pour assurer la récolte des bananes. Eh bien, miracle. Chaque année, ça marche. Chaque année, les bananiers donnent de nouvelles bananes. Bon, ça marche. Ça marche et ça marche pas, puisqu'en 2015, ils avaient fait des prières pour que le cyclone Pam... épargne leur île. Eh bien, finalement, Pam, le cyclone, n'a pas épargné leur île. Alors, ils auraient pu lui en vouloir au prince Philippe. Pas du tout. Au contraire, ils ont culpabilisé. Et comme des bons croyants, ils se sont dit, en fait, c'est de notre faute. On l'a pas prié assez fort. Alors, vous imaginez un petit peu le choc dans la tête de ces habitants quand, au début du mois, ils ont appris que le prince Philippe avait pris sa retraite. Du coup, ça veut dire qu'il n'a quasiment plus aucun espoir qu'ils viennent leur rendre visite. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu délicat, malgré tout. Parce que malgré toute cette dévotion, jamais, jamais le prince Philippe n'a pris la peine d'aller rendre visite à ses villageois qui pourtant l'idolâtrent.
Il n'est jamais allé au Vanuatu. Si
il y a été, Stéphane, mais il n'a pas.
Il
est en 74, mais il n'a pas été jusqu'à ce village. Vous voyez, c'est quand même regrettable. Ouais. La seule chose qui est arrivée, c'est que 4 villageois sont venus le voir et ils lui ont posé une question, mais une question un peu rituelle. La question, c'était la papaye est-elle mûre? voyez, c'est un peu symbolique. Ouais, comme le Christ est l'agneau, ouais. Le prince Philippe, c'est la papaye.
Ah bah, lui, il est très mûr, hein, 96 ans. Ah ouais. Vous dire
il mange à la papaye.
Il est plus que mûr.
Malheureusement, il est peut-être un peu trop mûr parce qu'il n'a pas bien compris le sens symbolique de la question. Et quand on lui a demandé la papaye est-elle mûre, il a dit mais non, bien sûr que non, il fait beaucoup trop froid en Angleterre pour les papayes. Vous voyez, donc il était complètement à côté de ses pompes. Alors, voilà, c'est pas vraiment un salaud, le prince Philippe.
Voilà,
mais malgré tout, il pourrait être un peu plus sympa si simplement il acceptait de rendre visite à ce village. Et enfin.
Il prend sa retraite parce qu'il a dit qu'il avait l'impression qu'il allait très vite monter au ciel. Et donc là, peut-être.
Ah ben là, il va être encore plus.
Ah ben voilà.
Contact direct. Ouais,
L'autre jour, il y a quelqu'un dans la rue qui lui a demandé mais pourquoi vous prenez votre retraite qui, à 96 ans, est assez logique. Il a répondu j'arrive plus à tenir debout. Et en même temps, il l'a fait avec humour parce qu'il tient très bien.
Il paraît que le jour où sa femme a été couronnée, il lui a dit dis donc, c'est quoi ce drôle de chapeau que tu as sur la tête. Vous voyez, comme quoi il a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour. Voilà. Alors, n'en faites pas un salaud pour autant.
Mais
merci beaucoup, Stéphane Blakowski. On va retrouver nos amis Ben et Jean-Marc Dumontet. Je vous donnerai des dates quand même. Il est à Andrézy, Ben, le 22 septembre. Et à Concarneau, le 6 octobre.
Voilà. C'est ça. À Lardy. Le 3 juin, ce sera plus près, c'est dans l'Essonne.
À Lardy, L-A-R-D-Y. C'est
une vie de fou. Une vie de dingue.
C'est incroyable, parce que vous voyagez comme garçon. J'ai envie de votre vie. Alors, on va les retrouver dans un court instant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Jean-Marc Dumontet et avec Ben. Ça se passe le 10 juin prochain sur la scène de l'Olympia. Le point virgule fait son Olympia avec un certain nombre d'artistes. Ben, vous avez toujours été le producteur de Ben ?
Non, on a commencé à travailler ensemble et puis ensuite Ben a repris sa liberté. Voilà. C'est un grand garçon.
Je suis mon propre producteur.
Oui.
Vous le regrettez aujourd'hui. Comment ?
Vous le regrettez ?
Non, pas du tout. mais j'ai beaucoup appris aux côtés de Jean-Marc.
Oui.
Mais c'est chouette, je suis un chef d'entreprise à ma manière.
Alors, sans faire de pins, vous êtes en tournée avec votre spectacle Éco-responsable que vous avez joué à Paris au Lucernaire. C'est le spectacle d'ailleurs qui sera diffusé au mois de juillet sur France 4 pendant la nuit du off d'Avignon.
C'est ça, le 17 juillet je crois, quelque chose comme ça.
Alors vous dites que c'est un spectacle sur la distance qui sépare l'homme que vous êtes de l'homme que vous aimeriez être. Il y a beaucoup de distance entre les deux.
Oui, c'est bien que vous ayez retrouvé cette phrase. J'ai dû dire ça.
Ça ressemble bien.
Je vois la conférence de presse à Avignon il y a 2 ans où j'avais trop bu de sangria et je me suis dit il faut que je sorte une phrase comme ça. L'idée c'était ça, non.
C'est ça quand même.
C'est de dire voilà, est-ce que je suis à la hauteur de mes ambitions et non, évidemment. Et qu'est-ce qui m'en sépare. Et c'était un peu de jouer avec ça, quoi, avec ces idées-là. Donc.
Et en même temps, vous avez vu cette vitrine, je parlais vitrine télévisuelle, parce que toutes les semaines, avec Arnaud de sa mère, vous êtes sur le canapé rouge de Michel Drucker. Est-ce que quand on écrit des sketchs ou on écrit des spectacles ou on les joue, c'est important d'avoir comme ça une fenêtre sur le petit écran pour pouvoir faire sa promo aussi
Bien sûr, ça aide énormément. C'est une grosse
et ça oblige à travailler.
Ah oui.
ça produire.
Ça oblige à travailler. Ouais, c'est un gros. Ouais, c'est vrai. Il faut travailler énormément. C'est bizarre parce que on se remet par rapport à la scène, on rôde jamais quoi. C'est one shot, on écrit, on jette. Mais c'est
vous en servez plus jamais pour un spectacle.
Si, ça arrive bien sûr.
Bah oui, c'est la matière première que vous raffinez différemment en fonction des...
Oui. Enfin, ça interdit pas de récupérer des trucs.
Oui.
Bien sûr.
Bah oui.
Surtout quand on est écolo,
éco-responsable.
Voilà.
Un éco-responsable fait de la récup.
On recycle.
Une bonne vanne, après tout.
Si elle a marché une fois, elle doit pouvoir marcher une seconde fois.
Ouais, exactement. Oui. Selon les publics.
Comme le politique, comme tout le monde. Quoi.
Tout se recycle. Absolument.
Tout se recycle.
Ouais. Mais vous préparez pas un spectacle avec Arnaud de sa mère, d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. C'est en cours. C'est un travail en cours. Ça devrait arriver dans le courant de l'année.
Ah oui ?
Ouais.
Vous êtes très discret sur tout ce que vous faites.
C'est vrai.
Vous allez à Lardy le 3 juin.
Ouais. Chambrez pas comme ça, Stéphane.
Mais si, il a fait 200 dates dans l'année. Non, mais qui fait 200 dates dans l'année ? C'est incroyable, 200 dates. Vous vous rendez compte ? Il est jamais chez lui, le
pauvre. À part les producteurs de dates. Mais...
Oui, je sais, pardon.
Oh, bah, elle est digne.
Vous avez vu l'affaire.
Oui, exactement. C'est le camembert qui dit Roquefort du cul, franchement, là. Alors, ce que je vous propose, on a quelques questions à poser à Jean-Marc Dumontet.
L'interview, c'est vrai que.
En fait, Jean-Marc, vous étiez destiné à devenir notaire.
Oui, c'est vrai. J'ai fait droit pour ça. Mon père et mes deux grands-pères étaient notaires. Et j'ai toujours pensé que je serais notaire. C'est pour ça que maintenant, je suis producteur de spectacle. Tout est cohérent.
Et quand Macron fait prendre des décisions
mais
contre
vous êtes habillé plus comme un notaire que comme un producteur de spectacle.
Non, je suis habillé comme un chef d'entreprise, comme quelqu'un qui dirige des équipes.
Il est chic, il est très élégant.
Je sais pas.
Mais parce que dans le showbiz, les gens ne sont pas très élégants.
Oui, mais est-ce que je suis dans le showbiz? Je ne sais pas.
Ils n'ont pas du tout d'affaires d'abord.
Non, je suis pas un homme d'affaires d'abord, mais j'ai des codes d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui manage des boîtes, qui fait avancer, et à partir de là, ça correspond plutôt à un costume, qu'à un jean troué et un jean. Voilà. Non, vous n'en avez pas.
Non,
c'est ça va. voilà, c'est un code. Voilà, je suis assez classique. Au fond, je suis assez classique.
Il est où le trou, Stéphane Bern,
sur mon jean. On parlait de la politique tout à l'heure. C'est vrai que vous aimez ça. Vous avez soutenu Emmanuel Macron. Mais vous dites si jamais on proposait, par exemple, un ministère, le ministère de la Culture, pourquoi pas, vous refuseriez parce que vous préférez quand même faire ce que vous faites aujourd'hui.
Mais j'adore mon métier. Il est très très riche. Et je suis très autonome et j'ai pas de contraintes. C'est-à-dire que je peux lancer n'importe quel projet.
J'ai gagné plus d'argent.
Oui, éventuellement, mais j'ai pas assez d'amour pour l'argent pour que ce soit ma seule motivation. Donc, alors que ministre, il faudrait d'abord qu'on vous le propose. Donc, c'est extrêmement prétentieux de parler de ça, si vous voulez, parce que voilà, il y a un seul poste. En plus, il est extrêmement bien pourvu. Je trouve que Macron a fait un excellentissime choix.
Et puis en plus, il faut être parfaitement clean.
Ensuite, il faut être parfaitement clean. Donc là, si vous voulez, ça me met évidemment
en cause. Même dans sa vie privée.
Et surtout, voilà, quand vous n'êtes pas du tout en position qu'on vous fasse cette proposition, on peut faire toutes les conjectures du monde. Oui, c'est pas d'actualité, c'est très prétentieux d'en parler. Donc voilà, j'ai un métier que j'adore, qui me permet d'embrasser beaucoup d'aventures, j'ai envie vraiment de le poursuivre.
C'est pas mal d'embrasser des aventures.
Oui, c'est bien. On va les chevaucher, si vous préférez. Ah bah, chevaucher des
vous
aventures.
Vous faites ce que vous voulez. Vous savez pas. D'autres questions, les amis?
Oui, parce qu'on vous présente comme un. Et vous êtes d'ailleurs un découvreur de talent, mais je vous ai entendu dire, est-ce que vous l'avez vraiment dit, que le talent est loin de suffire, il faut surtout être original, humble, bosseur, et que le talent, finalement, c'est... tout le monde en a, quasiment.
Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont du talent. Il y en a moins qui sont vraiment originaux. Il y en a moins qui sont vraiment humbles pour se remettre en question, pour travailler et pour persévérer et pour jamais avoir la grosse tête, même si le succès arrive. Parce qu'une carrière, ça s'inscrit au long cours. Donc, il faut tout le temps viser l'excellence. Et effectivement, c'est des qualités qui sont moins fréquentes. Et quand il y a la conjonction des trois, voilà, c'est le cas de gens que je produis, que je vais citer comme Canteloup ou comme Alex Lutz, qui sont des gens qui sont aussi à l'écoute, qui savent aussi se remettre en cause et qui travaillent tout le temps. Ben, vous avez plus de chances d'avoir de la chance quand vous travaillez beaucoup. Voilà. Et donc le talent, qui est une donnée essentielle pour embrasser cette carrière, il faut l'accompagner d'humilité, de travail.
Le talent, c'est plus répandu que les autres qualités, en fait.
Non, mais il faut...
Il faut ça aussi. Alors justement, à propos de talent, il est multiplié par 3, puisqu'elles sont là. C'est les coquettes. Mon missionnaire, c'est ça?
Hein,
ça,
vous
dévoilez
tout ce
que vous
dites. Bah, merci beaucoup de nous avoir réinvités, Stéphane. On est très contentes d'être là.
Ouais.
Et pour vous, c'est une nouvelle chanson aujourd'hui.
Et on espère qu'elle va vous plaire.
Faut rester in au niveau sexe, faut être bio ou combi latex. Alors pour suivre la tendance, on a tenté des expériences.
J'ai fait un stage Kama Sutra, testé la brouette thaïlandaise. Les pieds en l'air, la tête en bas, j'ai rendu mon poulet basket.
On pourra pas nous le reprocher, au moins on aura essayé. Vous pouvez dire que ça fait mémé, mais ce qu'on préfère c'est Mon missionnaire.
Moi j'ai testé un fétichiste, coup de fouet boule noire entre les dents. Cloué au mur comme Jésus-Christ, j'ai eu mal au cul pendant 3 ans. J'suis allée en club échangiste, j'me suis tapé 2 heures de queue. Dans une salle ils étaient 28 et y'avait mon père au milieu.
On pourra pas nous le reprocher, au moins on aura essayé. Vous pouvez dire que ça fait mémé, mais ce qu'on préfère c'est Mon missionnaire. Gardez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Les anneaux, c'est aux doigts, les canards à la mare, les rabbits, c'est Roger, la cravache au jockey, les menottes pour les flics, les plumeaux, ça stique, les boules pour Noël. Et les égale, c'est Dieu.
Bravo.
Les coquettes, oui. Les coquettes qui viennent nous rejoindre maintenant. Parce que, tenez, venez vous installer autour de la table. Parce que, donc, le 10 juin, elles seront avec vous, hein, oui. Jean-Marc Dumontet, oui. Avec le spectacle à l'Olympia. Par contre, le 2 juin, vous êtes toute seule.
Oui.
Oui, tout
ouais, on a la chance de faire l'Olympia, de réaliser un de nos premiers rêves.
Ah oui.
Deux ans après notre tout premier concert dans, un tout petit, dans une toute petite salle à Paris, on fait l'Olympia. On est ravis.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer le 2 juin?
Des choses incroyables.
C'est vrai. Vous n'êtes pas toutes seules, toutes les trois. Non, il y a. Y a...
On a les quatre musiciens.
Il y a les quatre musiciens et des choristes.
Pas de choristes, mais on va pas tout dévoiler. Il y a plein de surprises. En tout cas, c'est un show qui, ça va être la fête. Ouais. Voilà, le maître mot pour cette date, c'est faire la fête, prendre du plaisir. On en a qu'une, donc on a envie de s'amuser.
On a qu'une quoi ?
Qu'une date.
Qu'une date. Ça
ah, date. Donc, c'est... Mais c'est pas comme Ben.
Oui, mais j'ai
beaucoup de dates.
Il est un petit peu coquinou.
Ben, écoutez, voilà, je réponds. Vous avez tous émoustillé avec votre missionnaire. Ah, alors maintenant,
on se doutait que ça allait vous parler.
Ah ben. C'est incroyable.
C'est vrai que vous disiez deux ans, ça a été très très vite en fait.
Ouais, ouais c'est dingue. Ouais,
on a été bien accompagnés, hein, on a un super producteur. Mais c'est pas parce qu'il est là qu'on le dit.
Mais c'est pas
obligé dans le contrat.
C'est obligé dans le contrat. C'est contractuel. Et je rebondis sur ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, ce qui nous a beaucoup touché quand on a rencontré Jean-Marc pour la première fois, c'est qu'il a dit. Je vais vous mettre dans une salle et puis il n'y aura pas de journaliste, il n'y aura rien. Vous allez travailler. Au spectacle, il est bien, mais il peut être mieux. Mm-hmm. Donc bah oui, voilà les filles, on va se mettre au travail. Et on a fait ouais, à l'époque d'accord. On avait pas mal de chansons. On avait beaucoup de chansons coquines comme celle qu'on a chantée aujourd'hui. Et Jean-Marc il nous a dit bah c'est bien, c'est rigolo, mais vous pouvez faire vraiment mieux. Donc il nous a poussé à
pas que ça, pas que ça, en tout cas.
Est-ce que Jean-Marc a écrit des chansons coquines pour vous?
Non. Bah, on est ouvert.
Mais il y a un retour comme ça de spectacles avec des chansons qui ont un tiroir avec un double sens, avec du texte. C'est une permanence d'ailleurs dans l'histoire de la chanson française.
Bah, c'est une chance, tant mieux si ça tombe à ce moment-là.
Oui, Colette Renard l'a fait avec mon abricot,
les
nuits de demoiselles. C'est l'abricot qui m'est resté. Je ne sais pas pourquoi.
Non, mais une petite gourmandise particulière pour l'abricot.
Caresse-moi l'abricot.
J'adore les abricots.
Avec modération.
C'est vrai que c'est une chanson très coquine, oui.
Très, très coquine, oui. Avec les mots et la chose.
C'est vrai que Jean-Marc nous a beaucoup encouragés à aller vers d'autres sujets.
Oui, vers d'autres univers, oui.
Et nous, ça nous a beaucoup plu. Et puis, on a vu que effectivement, on dégageait d'autres choses. On avait d'autres échanges avec le public. Ça nous plaçait autre part. Parce que c'est vrai que quand on est trois filles, d'aller dans quelque chose de coquin, c'est rigolo. Et il y a quelque chose aussi quand même de facile à certains endroits si on s'arrête à ça.
Oui.
Et c'est vrai que d'avoir ouvert les sujets, ça nous a permis d'aborder des sujets comme le féminisme qui nous tiennent à cœur.
Il y a de très beaux moments sur le féminisme, vraiment, dans ce spectacle. Voilà. Et c'est ce
qu'est-ce qui vous plaît justement avec les coquettes, Jean-Marc?
Bah, elles sont intelligentes, elles sont vives, elles sont belles, elles ont du talent. Voilà,
elles sont très bonnes chanteuses.
Elles ont une belle voix. Les voix sont sublimes.
Et puis elles écrivent, c'est vous-même qui écrivez les chansons.
Et c'est vrai que je parle souvent de travail et qu'on est rentré tout de suite dans cette logique parce que quand je découvre des artistes, je vais pas les draguer en leur disant qu'elles sont les plus belles, que c'est magnifique ce qu'elles font. Je vais surtout accentuer mon propos sur les pistes d'amélioration qu'on a. Et voilà, c'est cet échange qui est intéressant. Et quand elles sont réceptives, enfin, quand l'artiste est réceptif, c'est comme ça qu'on construit quelque chose, à mon sens, de solide et pérenne.
Oui, et puis grâce à vous aussi, on a pu être sur scène très vite.
Oui.
On a commencé en octobre 2015 et on jouait 4 fois par semaine. Donc ça nous a permis d'améliorer le spectacle, de rajouter des choses. Le spectacle, il change tout le temps.
Et puis ça n'écrit toujours des nouvelles choses, de changer les choses.
Donc l'Olympia, c'est un peu une consécration quand même. Le 2 juin, c'est
bien. C'est
une
étape.
Et la deuxième étape, c'est le 10 juin.
Non, c'est une carrière, c'est long.
C'est long.
Voilà, oui. C'est long, il ne faut pas croire qu'on a une consécration, ça n'existe pas. Quand on pense qu'on est arrivé, c'est qu'on est fini.
Ah oui, oui.
Voilà.
Mais par contre, c'est vrai que le 10.
Ça, c'est...
Mais quand même, voir votre nom sur l'affiche,
c'est génial, ça. Déjà, évidemment, ça flatte l'ego, on ne va pas se mentir. On s'est posé la question d'aller, on s'est dit.
Donc, elles
ne
sont pas aussi intelligentes que ça.
Vous ne mettez pas vos noms, vous mettez les copains.
Justement, la question, c'est aussi. On s'est dit qu'on allait mettre les deux, qu'il fallait se faire un petit peu plaisir de temps en temps
aussi.
Dans ce métier, mais en tout cas, oui, on a envie de. Nous, on a envie de profiter de cette Olympia. Pour nous, c'est une joie. C'est vrai que c'est une étape, que c'est pas une consécration, mais quand même, on le vit comme une joie. On a envie de profiter de ce moment. C'est pour ça qu'on l'envisage comme une fête et qu'on a envie aussi que notre public passe un moment festif avec nous, parce que vraiment, pour nous, ça signifie une vraie étape dans notre carrière, c'est vrai, et un moment où on se dit, on a envie de profiter, on va assumer le fait qu'on est heureuse de faire cette Olympia.
Très bien.
Et je rebondis aussi sur les 10 ans de l'Olympia, les 10 ans du Grand Point à l'Olympia. C'est aussi important pour nous parce que d'être là, parce qu'on a commencé au Grand Point et c'est vraiment une salle qu'on adore et qui nous construit au quotidien. Et pour nous, de faire aussi les 10 ans, de fêter ces 10 ans-là, c'est aussi hyper important pour nous.
Donc 2 juin et 10 juin, les coquettes à l'Olympia.
Merci à vous,
vous êtes toujours les bienvenus. On va retrouver Éric Dussard pour le Zapping Télé dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec un grand classique du théâtre.
Et oui, le Dîner de cons, la fameuse pièce de Francis Weber dont se sont inspirées tant d'émissions de télé-réalité. Sauf que chez eux, il n'y a pas qu'un seul con, ce sont tous des pignons. La preuve encore, hier soir, dans Mundir et les apprentis aventuriers sur W9, où ils ont pêché un crabe. Alors, ce qui a fortement angoissé cette candidate.
Mais ça me fait peur un crabe quand même, ça a des pinces, ça peut faire mal, puis j'ai pas trop l'habitude d'être face à un crabe.
Tu fais la nounou du crabe?
Ah non, c'est pas cool ça.
Tu le surveilles, hein. Babysitter.
Non mais attendez, on va lui mettre un petit masque et un petit tuba. Moi je suis l'ami des bêtes, j'ai pas envie de tuer le crabe, donc j'essaye de lui mettre un tuba pour qu'il respire, et puis j'espère qu'il s'en sortira ce petit crabe.
Vous avez bien entendu, elle a mis un tuba au crabe qui demandait qu'une chose, mourir, être plongé au plus vite dans de l'eau bouillante pour en finir avec cette bécasse. Le pauvre, faut voir l'image, le pauvre crabe avec son tuba. Le crabe il était au bout du rouleau. Non mais qu'on en finisse.
C'est surtout qu'elle parle très fort. Quand même, elle a une manière de.
On l'entend bien. C'est important parce qu'elle dit des choses intéressantes.
Il y a un proverbe chinois qui dit que les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit.
C'est vrai.
Je parle un peu plus bas maintenant.
N'empêche que il y a de l'action dans cette émission. Comme quoi, on se croirait presque dans un film de Tom Cruise. Tom Cruise, il a pas fait ça encore. Le crabe avec un tuba, Tom Cruise. Faudrait y réfléchir pour un prochain film. Il était l'invité exceptionnel hier soir de Yann Barthès sur TMC dans Quotidien. Sa seule apparition à la télé française pour la promotion de son nouveau film.
Le réalisateur du film, Alan Kurzman, dit que votre coupe de cheveux fait partie des discussions dans la préparation de vos films. C'est vrai que vous disputez jusqu'aux cheveux, jusqu'à la longueur des cheveux, etc.
When you're making a movie, c'est vrai, quand on fait un film, on parle de tout. On parle de tout, de la garde-robe, du maquillage, de tout.
Et quel est le film qui serait le plus autobiographique?
Is he doing my also my hums?
Et vous avez vu, on traduit également les hésitations.
Je m'entends hésiter en français. Voilà.
Le traducteur s'est donné de la peine à traduire le hum, au cas où on n'aurait pas compris. Ouais. C'est vrai que le hum entre le français et l'anglais, c'est fondamentalement différent. Donc c'était très important de le traduire. Alors, ambiance Mission Impossible hier soir aussi dans Quotidien pour ce journaliste qui a tenté d'interviewer Jean-Luc Mélenchon après ses propos très polémiques, vous savez, sur Bernard Cazeneuve. Alors, un Jean-Luc Mélenchon plus charmant que jamais.
Après 22 minutes de discours, on a voulu revenir sur la polémique autour de son clash avec Bernard Cazeneuve et ça s'est plutôt mal passé.
Monsieur, si vous voulez bien vous asseoir comme tout le monde, ça me ferait très plaisir.
C'est vrai, mais...
Ouais, sinon, je ne vous répondrai pas. À quoi vous voulez arriver, monsieur?
C'est vos propos,
Non, alors
je veux savoir si vous les regrettez.
Voilà, c'est ça. Et vous, écoutez, monsieur, c'est bon, je vous ai déjà répondu. Maintenant, peut-être que vous aspirerez à mettre un sac de cendre sur la tête, que je me flagelle, parce que vous vous prenez pour des juges. Vous êtes juste en journaliste. journaliste, monsieur. Rappelez-vous-le. D'accord ?
Ambiance. Alors, bon, il faudra voir son score législatif, mais je suis en train de me dire un truc. Si ça marche pas, il ferait un très bon chroniqueur pour Touche pas à mon poste, je pense. Je trouve qu'il y a un petit profil à la Gilles Verdez, hein, en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. Il serait parfait, ça fonctionnerait dans le dispositif. En plus, il va y avoir de la place à la rentrée autour de la table avec tous ces départs de l'émission. Thierry Moreau, il y a quelques semaines, et Enora Malagré avant-hier. Ils ont tenu d'ailleurs à lui rendre hommage hier soir à Enora Malagré dans Touche pas à mon poste. C'était très sympa, mais alors par contre, le sujet. Il faisait quand même un peu nécrologie, je trouve.
Enora Malagré.
À 36 ans, Enora Malagré était l'une des chroniqueuses emblématiques de TPMP. Dans la bande, elle était à la fois la bonne copine, la petite sœur, une personnalité haute en couleur.
Alors je tiens à rassurer tout le monde, Enora Malagré va bien. Hein, elle va très bien. Hein. Elle est juste partie de l'émission. Quant à Mathieu Delormeau, lui, il ne devrait pas revenir dans l'émission. Il est absent depuis quelques jours suite à cet épisode polémique du fameux sketch taxé d'homophobie. Et Mathieu Delormeau songerait à tourner la page. Affaire à suivre.
D'accord. Revenons maintenant sur ce qui nous intéresse.
Affaire même.
Sur les Molières.
Oui, alors cette cérémonie des Molières dont vous êtes occupé cette année encore, Jean-Marc Dumontet, c'est avant-hier sur France 2. C'était une fois encore très réussi. Nicolas Bedos, il faut le dire, était en très grande forme. Et pourtant, quelques heures avant l'émission, il était très anxieux, Nicolas Bedos. Il faut dire aussi qu'il avait reçu des messages assez flippants sur son répondeur.
Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Nicolas Bedos. Laissez un message après le beep, merci.
Oui, mon Nico chéri, c'est Mumu, Muriel. Robin, je voulais juste te dire que je pense très fort à toi. J'aurais aimé être là, mais tu le sais, je suis en Afrique où je m'occupe des bonobos, des singes qui se marrent tout le temps, hein, un peu l'inverse du public des Molières. Je t'embrasse fort. Belle soirée.
Nicolas, c'est Jean-Pierre Bacry à l'appareil. Juste pour te dire que ben, je serai pas là ce soir. Hein, parce que j'aime pas les, tu sais, les cérémonies. Puis toi, je t'aime pas non plus. Donc voilà. La merde pour ce soir. Ça fait toujours bizarre de dire merde à une merde.
Non, mais alors, autant j'ai aucun doute sur le fait que c'était bien la vraie Muriel Robin, oui, c'était pas le vrai Jean-Pierre Bacry.
C'était le vrai Nicolas Canteloup.
C'était le vrai Nicolas Canteloup, voilà, qui le tient très bien.
Ouais.
Hein.
Ouais. Voilà.
Alors, des Molières qui ont été placés sous le signe de l'autodérision cette année encore. Alors, dès le début de la cérémonie, puisque Nicolas Bedos a commencé par remettre le Molière du plus gros échec critique et commercial de la saison à un certain Jean-Étienne Duflo, alias Jonathan Lambert.
Je vous remercie pour ce Molière. Je veux évidemment remercier tous ceux qui ne sont pas venus voir la pièce. Ils sont nombreux. Sans eux, je ne serais pas là ce soir. Je veux également remercier tous les critiques qui m'ont chié dessus.
Jean-Étienne, quelles sont les conséquences d'un échec de cette ampleur, je veux dire ?
Alors, écoutez, en ce qui me concerne, je suis sous le coup d'une mise en examen. Le procès aura lieu aux assises le 7 juin prochain.
Un procès, mais pour quelle raison ?
Une spectatrice est morte d'ennui. Oui, elle est littéralement morte d'ennui. La personne est décédée juste avant le troisième acte. Alors, elle a quand même eu le temps de poster un commentaire sur Billet Réduc. Elle a écrit « Je m'emmerde » avec un smiley glacial. Alors,
ils sont nombreux à s'en être pris plein la figure pendant cette cérémonie. Ça les fait tous rire ou pas ?
Je crois que ça les fait rire. Tout le monde est épinglé. Bacry a été épinglé. Pierre Arditi.
Même Richard Berry, ça l'a fait rire parce qu'il a pris une vanne très sérieuse.
Richard Berry, à plusieurs reprises, Nicolas avait imposé une règle, c'est que si les remerciements étaient trop longs, la personne partait en tournée pendant 2 ans et demi avec Richard Berry.
Ce qui semble être le supplice ultime.
Au bout d'un moment, d'ailleurs, Nicolas a dit, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne connais pas Richard Berry. Et d'ailleurs, un certain nombre de comédiens, du coup, ont dit, mais moi, je partirais volontiers avec Richard Berry. Vous voyez, donc voilà, c'était à la fois incisif, insolent comme c'est l'être Nicolas, mais je crois pas qu'il règle de compte méchant, avec les uns ou avec les autres. Il a juste l'envie, comme un sale gosse qu'il est, de s'amuser avec les gens qui
sans limite. Voilà. Bon, en tout cas, nous on a reçu dans l'émission lundi Bernard Ménez. Alors, il veut vous faire passer un message. Il veut bien venir au Molière, mais il veut plus être placé au fond de la salle. C'est ce qu'il nous a expliqué. Il aimerait vraiment. Hein, c'est vrai, hein. Oui. Bernard avait l'air un petit peu énervé du traitement qui lui était réservé. Donc voilà. Pour la prochaine édition, Bernard au premier rang.
Et on termine avec un futur lauréat.
Oui, je pense que notre camarade Michel Simès ne va pas tarder à monter sur scène pour un spectacle avec ses meilleures blagues du magazine de la santé. Là, c'est sûr, c'est le Molière assuré. Écoutez, magnifique blague encore hier.
Je connaissais l'oiseau, le oulala, vous connaissez pas ? Il avait une grosse paire de cougognettes et à chaque fois qu'il atterrissait, il faisait oulalalalala.
Court mais efficace, hein ?
Ah oui,
dit mieux.
C'est la chute.
Ah, c'était la chute. Patrice, vous en avez quelle la paternité ou pas ? Vous l'avez fait exactement, non ?
Vous connaissez la blague ?
Oui. C'est un classique, le oulala.
Ah bah ça marche à tous les coups.
Les Molières, c'était important de les ressusciter, non ?
Ah oui, parce que ça n'a pas existé pendant 2 ans, en 2012 et 2013, et depuis 2014, on a repris le flambeau, notamment avec Nicolas Bedos. Et oui, c'était une belle fête. Ça fait très pensif ce que je dis, mais c'était une belle fête du théâtre qui était légère, qui était simple, qui était joyeuse.
Et donc
ça fait plaisir de devoir cohabiter toutes les familles
là,
du théâtre.
Là, c'est devenu une vraie émission de télé.
Maintenant. Et c'est en plus une vraie émission de télé, évidemment.
Alors, on va retrouver Jean-Marc Dumontet, Ben. Je vous rappelle, le 10 juin, c'est à l'Olympia, le point virgule fait son Olympia. On se retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de la bonne heure. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
Il est midi 3, vous êtes sur RTL pour la suite de la bonne heure, bien sûr, avec Stéphane Bern.
Absolument, Marie Guerrier. Nous retrouvons tout de suite Jean-Marc Dumontet et Ben pour la suite de la bonne heure en direct et en public. Et alors, Jean-Marc, vous avez vos fourmilliers de projets, c'est-à-dire que vous ne restez jamais tranquille.
Et vous êtes... Stéphane ?
Non, mais moi, oui, mais c'est différent.
Ah, là,
nous, on a une certaine routine, vous voyez, tous les jours, on est là avec nos auditeurs qu'on aime.
C'est lui qui pose des questions.
Et voilà, mais
c'est le propre de mon métier de producteur et directeur de salle, effectivement, d'être toujours à la recherche de nouveaux projets, parce qu'il faut toujours se renouveler, proposer au public.
Et de nouveaux talents, vous les trouvez où, ces talents ? C'est-à-dire que vous allez vous passer votre temps à aller dans les petites salles ?
Oui, moi, j'assiste à beaucoup de spectacles, on fait beaucoup d'auditions au point virgule, on fait des représentations exceptionnelles pour voir si les gens ont effectivement un spectacle à la hauteur de nos attentes et puis un potentiel. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, autrement.
Et vous savez, qu'est-ce qui fait que vous dénichez le bon talent ?
Enfin, je ne sais pas.
On ne sait pas, il n'y a pas de recette magique.
Il n'y a pas de recette. Un des derniers talents que j'ai repéré, c'était Farid, il y a 3 ans, en audition. Il avait un vrai ton, une particularité, une personnalité. Voilà, donc à partir de là, il y avait le premier ingrédient nécessaire.
Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens que vous avez ratés en disant celui-là, il n'y arrivera jamais, et en fait, paf !
Par la force des choses, oui, bien sûr.
Un petit nom pour nous donner l'idée.
Non, mais au même moment où Ben, Alex et Jérôme étaient au point virgule, il y avait aussi Olivier de Benoît. Et Olivier de Benoît fait une très très belle carrière. Moi, je considérais à ce moment-là que comme j'avais déjà des artistes dont il fallait que je m'occupe, je ne pouvais pas grandir le cercle pour bien faire les choses. Donc voilà.
Maintenant, vous avez une écurie de combien de personnes ?
C'est joli ce terme, écurie.
Oui,
ça va, ok.
C'est des pourcents, des étalons.
C'est
des
bonnes gagneuses.
Ben est une bonne gagneuse.
D'accord, oui, mais voilà, c'est pas très, très joli, si c'est bien
on
ce que je disais.
On pourrait pas dire ça avec les
coquettes, mais bon. J'ai 8 ou 10 artistes, oui.
On peut pas en avoir plus.
Je crois pas, si on veut bien faire les choses. Moi, le but, c'est pas avoir 10 000 artistes et pas bien faire le travail.
Vous
c'est avec chacun.
Vous êtes pas grossiste en humour, quoi.
Non, vous savez, le métier d'un producteur, c'est vraiment s'engager et c'est avoir une responsabilité pour essayer de faire le maximum pour que le développement de leur carrière se passe bien. Donc, il y a des limites de temps.
Est-ce que vous savez que le 10 novembre, Ben est à Sainte-Geneviève-des-Bois?
Mais c'est que vous avez toutes mes dates, c'est incroyable.
Mais oui. Ben, on me les a données, en même temps, je les ai pas inventées.
Pardon, moi, je le sais parce que la France entière le sait. Voilà, moi, je suis. Voilà, c'est pas mieux qu'un autre.
Et
voilà.
Mes yeux dans le Rhône le 15 décembre. Voilà, je vous le dis si vous aviez oublié.
Merci.
Vérifiez sur votre agenda. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver dans un court instant un de vos collègues, Régis Maillot.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et c'est le moment de retrouver la marque du maillot de Régis Maillot.
À la bonne heure, la marque du maillot.
Je suis effondré.
Ah bon.
Je vous explique, ce week-end, je suis parti au Québec, histoire de comprendre à quel point le français est une belle langue. Je rentre, j'ouvre ma boîte mail et en plus des 238 newsletters de sites zoophiles auxquels m'a abonné Patrice Carmouze, et bien entendu les 932 spams quotidiens me préconisant d'élargir mon pénis, faut que ça s'arrête, hein. J'ai pas envie d'avoir un abonnement dans le slip, l'information choc, tu en parlais tout à l'heure, le choc émotionnel, j'apprends que Enora Malagré quitte touche pas à mon poste. Nouveau coup dur pour Cyril Hanouna qui perd sa caution culturelle. Et Nora Malagré, la télévision qu'on aime, pour nos auditeurs qui n'ont pas la curiosité intellectuelle de regarder C8, et Nora incarnée dans le grand barnum télévisuel, le raffinement, l'esprit libre, l'incarnation de la femme décomplexée, celle qui ose prendre la parole quand pourtant le silence s'impose. Et Nora, c'est la Sophie Favier des années 2010, la Cécile de Minibus. C'est vrai, c'est un marronnier du PAF. Chaque décennie recherche son icône blonde, grande gueule, qui fait un peu exciter le téléspectateur. La télévision, c'est comme la comédie française, une sempiternelle distribution dont on renouvelle les têtes, mais dont on conserve les emplois. Alors décidément, la gangrène gagne TPMP, d'aucuns murmurent que la fuite des cerveaux continue, après le départ de la Louise Michel de l'interview. Mathieu Delormeau, autre mastodonte du journalisme d'investigation, serait lui aussi sur le départ. Il aurait mis en avant sa clause de conscience. Ça arrive. Enfin bref, ça c'était pour l'actualité chaude et importante. Passons au coup de gueule du jour. Alors ici aussi, Stéphane Bern, c'est Piston et compagnie. Hein, comme ça, on reçoit Jean-Marc Dumonté. Mmh. Soi-disant que ce sont les 10 ans du point-virgule fait son Olympia. La véritable raison, on la connaît. Vous faites tous les deux partie de la même secte. Les macronistes.
Oh non.
Ah, j'ai assisté à un meeting de Macron, ça fait peur. À côté, la scientologie, c'est une réunion Tupperware pour le troisième âge. Hein. Alors là aussi, c'est Piston et compagnie. Hein. Depuis quand on reçoit des tenanciers de Bouclard? J'ai pas le souvenir que vous en ayez fait autant pour les 10 ans du centre culturel François Fillon de Sablé-sur-Sarthe.
Je le regrette maintenant.
Hein, la kermesse, la MJC Maurice Thorez à Créteil. Les 40 ans du centre culturel Goebbels à Montretout. Qui pourtant propose une programmation audacieuse. Alors aussi, Piston compagnie, je suis inquiet sur la ligne éditoriale de notre émission. Hein. En exclusivité, je vous donne la liste des invités de la semaine prochaine. Lundi, on recevra Lynn Renaud. Pour sa vie, son œuvre, aucune chronique ne sera autorisée. Mardi, Arditi et Berléand pour commenter leurs prestations aux cérémonies des Molières. Cérémonie produite par Jean-Marc Dumonté. Mercredi, Catherine Laborde et le chanteur Renaud pour un remake de The Voice. Ouais. Jeudi, Lynn Renaud, elle revient, oui. Faut qu'elle termine la phrase qu'elle a commencée lundi.
Oh, j'adore ma Lynn.
Et vendredi, Richard Ferrand viendra nous présenter sa chronique. J'en ai rien à péter.
À la rigueur, je suis plutôt ami avec Franck Ferrand.
Oui. Dites-moi, Stéphane Bern, ça va commencer à se voir, hein, votre proximité. Hein. Avec le pouvoir déjà. Macron qui reçoit Poutine à Versailles. Personne n'est dupe autour de la table. Personne n'est dupe. Déjà, je vous ai fait part de ma réserve au lendemain de l'organisation de la petite after à la pyramide du Louvre. Faire dormir dans l'ancienne demeure du roi, le petit prince de la finance, faut oser quand même. Hein. Mais de là, suggérer à Emmanuel Macron de recevoir Poutine à Versailles, mollo ! Il s'agit de la diplomatie française, pas de la troisième mi-temps de Secret d'Histoire. C'est quoi la suite? Une fête privée dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour la venue de Trump? Cache-cache à Chenonceau pour le prochain sommet franco-allemand d'Angela Merkel? Franchement, hein, ça va mal se terminer. À la bonne heure.
Merci beaucoup. C'est très drôle, mais je n'ai... Je vous rassure, Régis, je n'ai aucune accointance avec rien du tout. Hein.
D'accord.
Et la programmation n'est pas la bonne.
Vous êtes déçu, donc.
Ça, c'est du démenti. Ça, c'est du démenti. Non, mais je ne sais pas quoi dire.
Non, moi,
je peux vous donner les invités de la semaine prochaine. Ce n'est pas du tout ceux que vous avez mentionnés. Et Lynn Renaud est invitée permanente parce que nous l'aimons, notre Lynn.
Et c'est François Bayrou, l'invité. Donc,
rien à voir.
Et Marielle Desarnaises, mardi.
Non, on ne fait jamais de politique, nous. On invite jamais les politiques.
C'est dommage, c'est pas d'Henri IV. Ils sont chez Henri IV.
Oui. Hein, ils sont chez Elisabeth Martichou le matin à 7h45.
Ils sont partout, les macronistes.
Mais, et vous-même, vous y êtes venu, hein, on le sait.
Ah bon?
Alors, ça fait...
Merci.
Faites votre coming out, macroniste.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors, c'est le moment de l'interview. D'habitude, on a l'interview mais aujourd'hui, on a décidé d'avoir plein de différentes interviews. Et là, c'est l'interview Macron. C'est l'interview en même temps. C'est pas où, c'est en même temps.
Et voilà.
Mais justement, c'est qui est drôle. On se moque. Est-ce que vous aimez les spectacles dans lesquels on peut rire? Et en même temps, ceux où on peut pleurer.
Oui, alors complètement. Moi, j'aime beaucoup les spectacles d'humour, j'en produis beaucoup. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est Lettre ou pas, un texte de Jean-Claude Grimbert, interprété par Arditi et Russo. Mmh. Ça s'appelait Pour en finir avec les questions juives initialement. Ouais. J'ai fait changer le titre parce que ça intervenait après janvier 2015 et je voulais pas être racoleur, mais qui est une magnifique réponse à la bêtise humaine. Sur l'antisémitisme. Donc, évidemment, pour moi, tout doit avoir du sens. On parlait des coquettes tout à l'heure. Elles avaient un spectacle léger. J'ai souhaité qu'elles aient un spectacle aussi qui ait du propos et du fond et du sens. J'aime bien les deux, oui, et j'ai envie, j'ai besoin de ça. Mmh. Oui.
Est-ce que vous pouvez penser au bonheur des spectateurs qui sont dans une salle et en même temps penser à la recette et à la jauge et à ce que vous allez toucher?
Non, parce que ce qui me fait vibrer, c'est à la fin d'un spectacle, un public enthousiaste, parce que c'est une émotion très particulière. La recette, il faut qu'elle soit là, ça c'est mon devoir de chef d'entreprise. Oui. Mais ce qui me fait vibrer véritablement, c'est assister à un spectacle et voir comme lundi soir les Molières, et voir toute une salle heureuse émue par le talent des artistes.
Ah, vous êtes mûr pour être ministre de la culture.
Il
est très en même temps. Hein.
Est-ce que... en même temps, vous aimez le Bordeaux, dont vous êtes originaire, et en même temps, le Bourgogne.
Et non. Et non, parce que je ne connais que le Bordeaux. Et que quand j'étais jeune étudiant, j'ai fait un emprunt étudiant pour acheter du vin de Bordeaux.
Voilà, j'ai pas et acheté... vous avez toujours les bouteilles ?
Oui, oui, j'avais fait un emprunt. J'avais fait un emprunt de 40 000 francs.
C'est ça qui est bien avec l'emprunt étudiant, c'est qu'on n'est pas obligé de justifier pourquoi.
Exactement. J'ai acheté 40 000 francs en primeur.
C'est bien.
De Château-Lagrange, c'était de Pichon-Longueville.
Voilà,
bref.
Ça a bien vieilli.
Ça a bien vieilli, ça a bien. Et c'est vraiment en maturité maintenant. C'est vraiment en maturité.
Et vous ne les avez pas bu ?
Non.
Vous allez les revendre ?
Oh, mais non, jamais, jamais, jamais. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est l'idée qu'on s'en fait. Je ne suis pas une nocémiophile, mais c'est l'idée qu'on s'en fait des choses qui les rend belles.
C'est beau, mais vous avez plein de pensées philosophiques. Ben, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez remarqué que Michel Drucker peut rire et en même temps, il peut dormir?
Il a des rêves très drôles.
Oui, mais ce n'est pas une question, ça.
Mais si vous l'avez remarqué,
oui. Oui, je l'ai remarqué.
Est-ce qu'on peut aimer, question ouverte à tous les deux, est-ce qu'on peut aimer hier et en même temps aimer demain?
Hier m'intéresse pas beaucoup.
Ah oui, vous êtes pas nostalgique. Pourtant, vous gardez tout.
Pourtant, il faisait beau. Hein.
C'est pas ce qui m'intéresse le plus.
C'est demain qui vous intéresse.
Davantage. Ce qu'on peut imaginer.
Et vous, Ben, vous êtes plutôt nostalgique ou plutôt.
Je pense qu'il faudrait que je me concentre sur demain, mais j'ai un peu tendance à. Je suis un vieux avant l'heure, moi.
Mais je comprends. Est-ce qu'on peut réussir sa vie professionnelle et en même temps réussir sa vie privée?
Non, c'est impossible. Il faut être catégorique là-dessus. C'est vraiment, il faut faire un choix.
Vous avez... voilà. En revanche, on peut rater les deux.
C'est vrai. C'est un choix par défaut parfois. C'est-à-dire, ce qui est horrible, j'ai remarqué, c'est quand votre vie professionnelle commence à aller mal, votre femme vous quitte à ce moment-là. Elle est aussi mauvaise.
En tout cas, expérience, je peux vous confirmer que c'est tout à fait possible de foirer les deux.
Oui, en même temps.
Et vous, Jean-Marc ?
Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je pense vraiment réussi ma vie privée et j'espère réussir ma vie professionnelle.
C'est bien. Donc c'est en même temps. Est-ce que dernière question? Ah non, on n'a pas le temps. Allez. Est-ce qu'en même temps, comme dirait EM, est-ce qu'en même temps on peut vivre à Paris et se sentir provincial? Et ne répondez pas Paris Village.
Oui, parce que moi j'ai habité Bordeaux jusqu'en 2010. Je suis un Parisien récent, donc j'ai toujours des racines à Bordeaux, évidemment.
C'est pour ça que je serai à mes yeux le 16.
Le 15 décembre. Non, je veux bien vous donner ma fiche, Ben, parce que vous pourriez réviser vos dates quand même.
Et en même temps aussi, tu seras ailleurs que mes yeux.
Oui, en hologramme.
Grâce à l'hologramme, certains peuvent être en même temps ici et en même temps là. Et bien très bien, ils ont bien répondu à l'interview en même temps. C'est aussi drôle que ouhou. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir à cette salle mythique de l'Olympia où le point virgule fait son Olympia le 10 juin avec le quiz musical de Patrice Carmouze.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, je rappelle le principe et en même temps j'en informe nos invités. Jean-Marc et Ben, vous jouez avec moi pour faire gagner Michel. Non, n'est pas membre de ma famille. Et les autres, c'est-à-dire Stéphane Blacco avec Régis et Eric, jouent pour faire gagner Bernadette. Voilà, qui est de 69. Elle est de département de Rhône.
Soyez polis, restez polis.
Et comme mes yeux. Voilà.
Évidemment.
Et nous jouons pour gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes en pension complète à votre choix grâce à Cap France. Vous choisissez la montagne, la mer ou la campagne.
C'est bien ça.
Voilà. Alors, ce sont des chanteurs qui ont fait les grandes heures de l'Olympia. Donc, on commence par vous, Ben, Jean-Marc et Stéphane. Faut reconnaître qui chante.
On est imbattable là-dessus. Hein.
Il avait un joli nom.
Moi, je sais.
Mon guide.
C'est
Beko. Monsieur 100 000 volts.
Monsieur Olympia, la première fois qu'il est passé, on a cassé une trentaine de chaises.
Puis il faut savoir que c'est lui qui a le nombre de passages.
Oui, le plus gros. Oui. On devrait. Gaïa qui travaille toujours. Mais non, on devrait redécouvrir.
Oui, Gilles Berbeko.
C'est formidable, Gilles Berbeko.
Une vingtaine de 20 à 30 passages, je pense.
Il faisait tous les ans.
Ah oui, mais il restait très longtemps. Il faisait partie de ces artistes.
C'était l'époque où on restait très longtemps. Oui,
il prenait. Bon.
Alors deuxième extrait, ça c'est pour les autres. L'autre équipe.
Concentrez-vous. Les Beatles.
Beatles, ouais.
C'est quand il faisait la première partie, c'est Sylvie Vartan. Oui.
Ça a changé depuis. Hein.
Et il y avait Trini Lopez aussi. Non, on avait tout cassé plus pour les...
Pour Sylvie Vartan.
Pour Gilbert Bécon que pour les Beatles. Un partout. Un partout. Ça, c'est très facile. C'est
pour... Nous étions quelques bons copains.
Ah, Yves Montand.
Il y avait Firmin. Il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Facile dans l'ensemble, cela dit.
J'adore les chansons.
C'est-à-dire, quand on fait l'Olympia, on est un peu connu.
Oui, on est un peu connu. Mmh. Alors, à vous maintenant pour. Ça, c'était facile aussi.
Sardou.
Non. Écoutez ça.
Non, Michel Sardou.
Mais tout d'un coup, il va revenir parce qu'il va être dans l'émission. Parce qu'en octobre, il sort un nouvel album.
Oui, mais là,
c'est sa dernière scène. Après,
il arrête de chanter. Il arrête de chanter, en revanche.
Oui, mais c'est un type formidable.
Il chantera toujours dans nos cœurs, Michel.
Ouais,
il
y en a qui
l'annoncent. Et comme elle, alors.
Quand je suis moi, lui.
Ah bah,
Véronique.
Véronique.
Ce vibrato.
Genre, si vous n'êtes pas très... Si.
Il est plus comique que chanteur. Hein. Il n'a pas trop
d'influence. Non,
Véronique,
ça, c'était
bien. Patrice, la blague.
Elle
sera la seule Pléniel.
Mais vous êtes horrible, vous dites des horreurs, Jean-Marc Dumontet.
C'est pour ça que vous m'avez invité.
Mais oui. Attention, ça, c'est peut-être plus compliqué.
Reste du monde.
Petit sage. R.
Non,
Camille.
Camille. Pas loin.
Ah, l'oiseau, oui.
Ah, Émile, oui.
Non.
Non.
Hein, refaites-nous.
C'est bien, on fait un Pictionary. Dans
c'est Émile Simon.
Vous croyez que j'allais laisser ce point-là, certainement
pas.
On va vous massacrer.
Trois par tout le monde a fait l'Olympia.
Alors, vous, facile encore, mais ça, c'est mythique de l'Olympia. Jeanne Brel. Il vomissait dans la coulisse avant de monter sur scène.
Une belle histoire.
Alors ça, c'est en 65.
66, c'est son dernier Olympia.
65.
66, dernier Olympia.
Je crois que c'est 65.
Vous n'étiez pas né,
Régis. Régis, c'est 66.
Il revient à un rappel. C'est la première fois qu'il chante cette chanson et le public demande de la bisser.
Ouais, non, c'est son dernier Olympia.
Il vomissait, c'est pas ça.
4-3.
4-3, ça c'est facile pour vous.
C'est pour nous ça,
ouais.
Eddie Mitchell.
Oui. Allez, égalité.
Ça va?
C'est super bien.
Ça va, Stéphane?
On en fait deux, puis si on fera après un encore à vous. Ça, c'est facile. Ah,
bah, Fastoche. Va aller nous donner des trucs durs.
5-4.
Hein? Fallait nous donner du dur là.
Oui, ça va être pour nous. Facile encore.
Dalida. Ou Orlando, je sais pas.
Allez voir les garçons Orlando un peu, non?
Bon, alors, comme il y a une égalité, on va faire le départage. Alors là, il faut être le plus rapide.
Le départage.
Oui. On va départager les deux équipes.
Avant, là, ça n'existe pas.
Départagement, évidemment.
On le fera. Dans ce jeu, ça existe. Départageons-nous, départagez-vous. Alors, qui chante ça? Le plus rapide gagne.
Christmas time.
Adèle.
Daniel Kroll. C'est le reste du monde.
Bravo.
Bravo, Eric.
C'est Bernadette. Bernadette qui part avec Cap France
qui
pour une semaine
de
vacances. Bah, elle est près de mon cœur. Je ne sais pas si elle est près de mes yeux.
Mes yeux.
Voilà. Ah, bah oui, on va faire.
Bon, Bernadette de Messieurs, oui.
Bernadette qui habite dans le Rhône. Eh bien, voilà. Merci, Ben, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que la diffusion du spectacle Ben éco-responsable, c'est en juillet, le 17 juillet, sur France 4 au Festival Off d'Avignon. Et puis, il y a toutes les dates qu'on mettra sur rtl.fr. Lardi, c'est samedi.
C'est lardi.
Et puis Jean-Marc Dumontet,
merci
d'avoir été avec nous. Je rappelle que le 10 juin, eh bien, c'est le point virgule fait son Olympia. À l'Olympia, hein, comme son nom l'indique. Demain, nous serons avec la soprano Patricia Petitbon en direct dans l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.